Un rideau se tire. Un rideau se lève. La nuit crépite son vivant. Quand le petit matin nous dit viens. L'ADN, l'émission qui se promène dans le champ du mouvement. En cheminant, Magali se met à l'écoute d'actions, d'événements ou encore de témoignages d'acteurs et actrices remarquables des territoires drômois et ardéchois qui agissent et réagissent au cœur de l'incontournable transiliance qui s'opère dans ce contexte flex et complexe de ce début de troisième millénaire. L'ADN vous emmène à Vassieux-en-Vercors, rencontrer François Lejeune de la structure Équipier. Il nous raconte ici la grande histoire du cheval du Vercors de Barakan et nous partage sa démarche militante en tant qu'éleveur pour faire perdurer la préservation de cette race et favoriser la résilience de ses chevaux territoriaux sur le Vercors et plus largement sur le département de la Drôme.
Mes chevaux, lorsqu'ils naissent, je les nomme. Donc j'ai Persia, Piaché, Plume, Falco. Et je rajoute donc un affixe d'élevage. Et l'affixe, donc ça vient, ça donne un peu de noblesse. Moi, ça me fait marrer parce qu'il n'y a évidemment pas de noblesse. Mais c'est assez rigolo d'avoir une signature d'élevage aussi dans l'identité du cheval qui lui quitte ta structure. Et donc mon affixe d'élevage, c'est de la Doline. J'adore ces parcs et ces ambiances. Voilà, tu vois, regarde, c'est en train de se lever le soleil. Et tu as la brume qui laisse un peu ses... C'est fond de peau. Donc fond de peau, c'est logique de points bas, qui sont vraiment des zones qui encaissent le froid, le froid descend.
Je viens de retrouver François Lejeune, qui déjà raconte. Il est, je pense, intarissable sur la géologie aussi de son lieu, là où on vient de retrouver certains de ses chevaux, un troupeau de Barakan, de la Doline. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est la Doline ?
Et ben donc la Doline, c'est ces points bas hein, dans cette formation géologique un peu tabulaire du Vercors. Et donc l'érosion et les fontes glaciaires, l'eau froide a eu une action forte de dissolution du calcaire. Et ces jeux d'érosion et de collecteurs d'eau de fonte ont singularisé ces formes de creux. Et donc voilà, c'est des points bas hein, dans le paysage. La plaine de Vassieux hein, est assez très singulière de cet affleurement rocheux et de cette expression du plateau calcaire et de ses singularités géologiques. Donc les dolines, les fameux lapiaz, hein, c'est vraiment ces zones visibles, affleurantes de ce sillonnage d'eau sur la roche. Et puis de ces cialets ouverts, hein, donc de ces gouffres à ciel ouvert qui donnent accès aux réseaux souterrains et qui font la joie des spéléologues. Donc voilà, là on est vraiment sous la plaine des moulins de Vassieux, les fameux vestiges des moulins à vent de Vassieux. Et donc sous cette grande plaine des moulins, on retrouve mon troupeau dans ces grands parcs d'été. Là c'est le troupeau, on va dire, des poulinières et des jeunes, par opposition au reste de mes petits groupes de chevaux qui sont constitués d'étalons et des juments de leurs amoureuses de l'année, que je laisse ensemble pour une meilleure sociabilisation des Antibes. Un étalon naturel, il n'a pas une ou deux juments, il en a 3, 4, 5, 6. Et voilà, et donc j'ai dans la structuration de mon troupeau trois étalons et donc accompagnés de leurs juments. Et puis ce troupeau un petit peu central d'élevage, là il y a un groupe de 14 avec les poulains de l'année, des jeunes de l'année dernière, des jeunes femelles de renouvellement, des matriarches, des mamans d'âge mûr. Voilà, donc là il y a un joli petit groupe qui nous accueille.
François, il y a un magnifique en effet un troupeau de chevaux du Vercors de Barakan. Mais alors c'est quoi, dit le cheval Barakan? Et avant, j'aimerais bien que tu nous expliques comment tu en es arriver à prendre soin de ces chevaux, ou comment t'es arrivé dans les Dolines?
Eh ben, on est sur le Vercors. J'ai débarqué sur le Vercors. Je suis pas un enfant du pays. Moi, je vais faire une petite comparaison rigolote, mais évocatrice aussi de ce qui singularise ce Vercors et notamment cette plaine de Vassieux. Donc les événements de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, je suis né à Verdun, dans les tranchées, non dans les dolines, aussi dans des fonds de trous. J'y ai un peu grandi, hein, puisque j'ai débarqué à Grenoble à 4 ans. Et voilà, l'évolution professionnelle de mes parents ont plutôt fait de moi un grenoblois ou un alpin. Et puis nous montions en vacances sur le Vercors, et notamment sur le Vercors Sud à Vassieux. Et voilà, moi je suis vraiment tombé amoureux de ces grands espaces, tout simplement, et de mes affinités, en tout cas, à ces espaces, à la nature, à la montagne, à la pédagogie, parce que j'étais accompagnateur en moyenne montagne. Après un cursus de formation aussi autour de l'environnement ou de la biologie, mais aussi d'agriculture, parce que j'ai un BTS agricole en production animale. Voilà, et de ces amours-là, au fil des années, et notamment il y a 10 ans, voilà, j'en suis revenu assez un peu ces premières amours du monde animal et de ces chevaux qui n'étaient pas forcément mes animaux privilégiés. Mais en tout cas, moi, la rencontre avec les chevaux, elle se fait vraiment plutôt autour de l'identité paysanne et rurale, et plutôt du cheval de trait, et plutôt loin de l'univers de l'équitation. Dans ce qu'elle, malheureusement, elle est souvent représentée dans cet univers un peu traditionnel, hein, de l'obstacle, du monde du sport. Non, moi, c'est vraiment l'identité paysanne, territoriale, qui m'anime et qui me plaît. Et forcément, de mes pérégrinations professionnelles, quand je reviens sur le Vercors en 2005, on va dire, avec un projet d'itinérance pédestre, donc dans le cadre de ces affinités et prérogatives professionnelles d'accompagnateur en moyenne montagne, où je veux parcourir les hauts plateaux avec des chevaux de bas, pour gagner en autonomie sur l'itinérance et la capacité à évoluer et à dormir sur les hauts plateaux. Je cherche un allié, un équipier, le cheval, plutôt dans sa vocation de cheval de bas, de cet accompagnant de l'activité humaine.
Donc c'est le cheval du Vercors qui vient à toi, en fait, dans cette attente.
Bah, c'est exactement ça, c'est qu'en fait, évidemment, hein, que des chevaux rustiques, des chevaux de montagne, il y en a plein, hein, des identités tant françaises, on va dire, de nos territoires français que étrangères, il y en a évidemment pléthore. Mais voilà, pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a ici? Et puis c'est cette découverte à travers ces échanges et ces rencontres associatives d'un projet de sauvegarde de race, hein, qui est déjà présent auprès de certains acteurs, porté par le Parc naturel régional du Vercors, sur faire ensemble et faire avec nos identités locales, et donc ce cheval du Vercors de Barakan, à qui il faut redonner... comme on aime à dire, les nets de noblesse, enfin en tout cas d'être une race française reconnue, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Voilà, donc je rentre un peu dans cette aventure associative, politique, voilà, militante.
Est-ce que tu peux nous dire deux mots alors sur l'histoire de ce cheval du Vercors? Le Barakan, c'est quand même c'est une histoire particulière.
Je vais vraiment prendre comme définition, pour aller rencontrer donc ce cheval du Vercors de Barakan, son identité, celle qu'on lui a donnée, la plus récente, celle qu'on a donnée en 2017, suite à la reconnaissance de race par le ministère de l'Agriculture en juillet 2017, et donc à laquelle, dans la structuration du dossier, hein, qui fait état d'un projet collectif basé sur un historique singulier, parce que là encore, ce schéma réglementaire ministériel, il est particulier. Nous, on fait état d'une race séculaire, d'autres vont faire état d'une race nouvelle. Donc là, nous, quand on a fait état de notre histoire, celle que je vais te raconter, bah voilà, c'est vraiment une histoire singulière qui finalement est résumée dans l'identité de ce cheval, cheval du Vercors de Barakan. On va principalement se retrouver dans le Vercors Sud. Alors là aussi, la définition du Vercors, elle est, on va dire, on retrouve un peu une espèce de conflit territorial entre le Nord et le Sud, entre l'Isère et la Drôme. Passons, parce qu'évidemment, on a une unité géographique qui est celle du massif du Vercors, qui chevauche de département. Mais toujours est-il que cette histoire paysanne qui vient ancrer cette archive de la domestication du cheval, on la retrouve à Léoncel, autour de l'abbaye cistercienne de Léoncel, où du coup, fin 18e, et bien avant, en tout cas, toute cette vie paysanne plutôt pauvre, hein, très autarcique, très isolée sur ce massif du Vercors, elle était animée, régie par la vie un peu monacale, où du coup, les ecclésiastiques faisaient un petit peu cette politique territoriale, et où on retrouve des grandes logiques aussi, justement, territoriales. Et donc, on a une archive qui fait état de comment un prêtre de cette abbaye phosphorait, rêvait de construire cette économie agricole et rurale autour d'un cheval, de ce cheval de territoire qu'il nommait comme étant le cheval du Vercors. Donc, d'où venait ce cheval? On pourrait remonter encore plus loin, hein, une fois de plus, nos Vertacomicori, nos peuples celtes qui sont montés sur le Vercors, qui étaient des peuples cavaliers, qu'ont-ils laissé de cet héritage de leurs chevaux sur ce massif, avec l'insularité de ce massif, de ce territoire qui est isolé. Isolé ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'échanges, hein, commerciaux, parce qu'évidemment que les populations commerçaient avec la vallée, mais forcément au rythme de ce que les pas, les routes leur permettaient. Et forcément, jusque fin 18e et même plus tard, fin 19e, ces échanges étaient relativement modestes. Donc cette évolution, on va dire, spontanée, naturelle, a forcément singularisé cette population de chevaux du Vercors. Et donc notre prêtre de Léoncel, en 1760, évoque sur un écrit un cheval rustique à la longue crinière. Enfin voilà, on a différents écrits qui viennent, du coup, pour nous, marquer vraiment l'existence identifié de ce cheval-là. Et puis, on va faire un petit bond d'un siècle. On arrive effectivement sur la révolution industrielle, fin 19e. Du coup, là, il se joue beaucoup de choses au niveau des populations locales et sur la vie paysanne. Et où, du coup, cette révolution industrielle dans la vallée, elle va offrir des possibilités de travail et de rémunération certaines, là où les populations survivent sur le Vercors, et notamment, là encore, sur ce territoire un petit peu du Vercors Sud, à la frontière de la Gervanne et des Monts du Matin. Et on se retrouve encore sur Léoncel, où la famille Barracan, qui était à l'époque plutôt fermière d'une riche famille qui exploitait les alpages de Fondure les Dombelles. Cette famille Barracan, tantôt sur Léoncel, tantôt sur un habitat permanent qui était la ferme d'Ambelle. C'est assez incroyable, cette ferme d'Ambelle, cette zone quand même des estives du plateau du Vercors, en tout cas de ces alpages singuliers d'Ambelle et de Fondurle. Donc quand même des habitats permanents dans des zones rudes, on imagine un peu les hivers. Et justement, cette série d'hivers, fin 19e en tout cas, qui a été marquée par des hivers très très froids. Alors évidemment, à l'époque, dans tous les cas, c'était globalement très froid. Partout sur le Vercors, on parle du Vercors comme étant une petite Sibérie. Bon, chacun fait état de son plus grand froid, tantôt les Ardéchois que la Haute-Loire, que les Jurassiens, enfin bref. Donc nous aussi, on avait froid. Et du coup, cette famille Barracan, dans un jeu de déprise agricole, de populations qui s'en vont, qui abandonnent parce que c'est trop dur, parce que s'il fait trop froid, parce qu'on est trop pauvre, qui vont travailler dans le Royan, fait quand même déjà état, par sa volonté de rester, d'être à la meilleure place pour récupérer. Je schématise un peu, je caricature, mais récupérer des terres. Et puis viendra aussi, à la fois j'avance, mais je vais revenir en arrière, par le jeu de la Première Guerre mondiale aussi, qui va écrémer un petit peu les populations, et notamment les hommes qui ne reviendront pas du front. En tout cas, avant cela, cette famille Barracan va faire naître en tout cas un personnage qui, pour nous, dans cette histoire, est singulier, un personnage qu'on va nommer Jules, voilà, qui s'appelle Jules Barracan. De son père Frédéric hérite un petit peu d'une démarche très conservatrice, très sage de cette identité territoriale, puisqu'on lui prête un petit peu cette volonté conservatrice de ne pas céder à la tentation trop rapide de faire appel à des gros chevaux de trait, qui évidemment auraient plus d'efficacité par leur force à labourer des champs, à sortir du bois. De même qu'ils ne céderont pas, tel qu'en tout cas on nous le transmet, à l'idée de faire monter des vaches trop laitières. Parce qu'évidemment, ça produit plus de lait, mais à quel prix sanitaire? Évidemment, pour produire du lait, il faut de la matière première fourragère de qualité. Et la qualité que l'on a en plaine ou dans d'autres conditions climatiques, on ne l'a pas forcément à la montagne. Donc en tout cas, amené comme ça par ce jeu de cette ouverture des routes aussi, au moment de cette révolution industrielle, puisque c'est l'époque de la construction des routes sur le Vercors et du désenclavement un petit peu de ce massif, forcément les échanges commerciaux s'accélèrent. Donc on a plus facile à faire monter ces animaux plus productifs. Et donc l'idée, c'est vraiment de dire, les animaux, ils peuvent monter, ils vont être plus performants, mais est-ce que nos systèmes pastoraux, nos systèmes fourragers vont suivre? Pas forcément. Nos substrats rocheux sont ce qu'ils sont, l'aridité, le froid, enfin bref. Donc ils s'inscrivent vraiment, cette famille-là, dans cette idée de ne pas perdre ces identités locales qui, elles, ont mis des siècles à s'adapter.
Donc ils préservent le cheval du Vercors.
Voilà, donc c'est vraiment ce cheval du Vercors qui est transmis dans l'idée à ce fils Jules Barracan, qui du coup, lui, elle va vraiment avoir de cette... En fait, il y a cette transition aussi, donc je le disais, d'une famille de fermiers qui du coup vont devenir propriétaires de leur territoire. Et ce Jules Barracan, il a vraiment une ambition conquérante, d'une part foncière, et évidemment d'autre part sur ce foncier, d'y mettre des animaux. Et il va construire assez rapidement, en une dizaine d'années, et par la suite, ce qu'on lui prête, le plus grand empire pastoral des Alpes. Donc il va mettre en place, dès 1908, une première transhumance de ses chevaux, là où il faisait déjà état de transhumance de ses brebis et de ses vaches, puisqu'il n'avait évidemment pas que des chevaux. On estime qu'il est monté à plus de 200 individus équins, et qu'il avait quasiment le double de vaches et presque peut-être oui, le quintuple de brebis, ce qui du coup en soi constituait un cheptel de bétail conséquent, et articuler tout ça sur un foncier là aussi extrêmement important, puisque toute la plaine de Léoncelle jusqu'à la vacherie non pas lui appartenait, mais presque. Et après, au-delà, ces fameux alpages de Fondé d'Ambel dont il a fait l'acquisition. Et de cette volonté de faire naître et de commercer des animaux, puisque du coup, on n'était plus du tout dans une production alimentaire et autarcique, donc d'animaux de travail et de rente, enfin voilà, pour la consommation. On est vraiment dans l'idée de commercer. Voilà.
Là, c'est le début du commerce de la race.
Ouais, en tout cas, c'est ce qui d'un seul coup va lui permettre finalement d'être sauvé, parce que plutôt que de la vendre en local, puisque localement, on le sait, justement, nombreux sont celles et ceux qui ont cédé à l'idée d'avoir de ces gros chevaux de trait, puisque quand on prend un peu nos archives photographiques du début du XXe siècle, quand on voit ces fameux chevaux dans la neige qui tirent les étraves pour ouvrir les routes, et cette culture paysanne de tout l'ensemble du massif, on voit peu de barracans finalement, on voit beaucoup de chevaux de trait. Et ce cheval du Vercors de Barracan, ce cheval du Vercors, on l'a dit à ce moment-là, il est encore du Vercors, puisque c'est un petit cheval et du coup qui est moins attractif que ses gros chevaux de trait. Cette famille Barracan va lui permettre de survivre en mettant en place son système transhumant. Et du coup, ce petit cheval de montagne, le long de son itinéraire de transhumance jusqu'à la plaine de la Croix, donc au nord de Arles, entre Arles et les Alpilles, donc au nord de la Camargue en fait. Donc il y a des plaines fourragères hivernales qui étaient très propices à ces stockages d'animaux avec des ressources fourragères hivernales sur pied. C'est ce qu'on appelle un système herbacier. Et bien du coup, sur un modèle transhumant plutôt ovin, il a calqué ça donc à ses vaches et à ses chevaux pour stocker ses animaux d'élevage. Et du coup, cette famille Barracan va même faire l'acquisition de masse, de propriété au niveau de Arles, pour asseoir un petit peu cette production animalière, tant équine que bovine que ovine. Et la polyvalence de ce cheval répond à ces différentes fonctions, tant agricoles que quotidiennes, d'atteler sa calèche, pour aller à la messe, pour aller faire des courses, sortir du bois, labourer son champ de patates, que faucher son foin, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est vraiment une pièce maîtresse qui va compléter ou s'adosser aussi au travail des bœufs. C'est un cheval qui est très polyvalent.
Au moment de ces transhumances-là menées par ce fameux Jules Barracan, est-ce qu'à ce moment-là, Jules Barracan envisage du croisement d'espèces ou il est toujours dans la préservation de l'espèce pure du Barracan ?
Alors ça, on ne sait pas trop. Peut-être parce que c'est un postulat qui nous arrange, mais dans tous les cas, il nous manque des informations. Il nous manque des informations parce que finalement, il y a une tradition orale qui s'est un peu perdue, parce qu'il y a une collecte d'informations qui a brûlé pendant la Première Guerre mondiale, et notamment les carnets d'élevage. Donc en fait, nous, on construit un peu notre identité. Alors, à tort ou à raison, on ne le sait pas vraiment. En tout cas, on se donne ce postulat de croire qu'on est dans la continuité de quelque chose. Souvent, on parle de patrimoine vivant, on pense faire état d'une singularité génétique, biologique. Un patrimoine vivant, c'est une culture. En fait, c'est du folklore, c'est une fonctionnalité. Et donc, en fait, cette évocation par notre curé en 1760, elle fait état d'une fonctionnalité. Contrairement à d'autres territoires où notamment la culture et le folklore se concrétisent très fortement par des costumes, voire même on affuble les animaux d'un certain nombre de choses, chez nous, ce n'est pas trop le cas. On n'a pas, même dans cette culture paysanne du Vercors, des choses très très singulières qui auraient marqué des traditions autour de la musique, une fois de plus autour. Voilà. C'est pas très très marqué chez nous. Ça n'empêche que les choses existaient. Donc non, Jules Barracan, il a conservé, il a développé ce cheptel-là sans qu'on sache vraiment s'il a croisé, en tout cas avec d'autres races, parce que là encore, les races évoluent. On a présenté sa démarche comme étant conservatrice. L'était-elle vraiment ? Ma difficulté à m'installer, elle est réelle, mais elle m'a aussi obligé de me concentrer sur un des volets de mon projet. Et finalement, ce qui a été le plus simple pour moi, c'est de me concentrer sur l'élevage. Donc aujourd'hui, je ne suis plus que éleveur. J'ai quitté des fonctions, on va dire mon dernier métier salarié, j'étais garde à cheval pour le département de la Drôme sur les espaces naturels sensibles et je prêtais d'ailleurs beaucoup à l'époque d'attention et d'intention à faire valoir l'identité territoriale puisque ces espaces naturels sensibles de la Drôme sont particulièrement remarquables sur trois sites, la forêt départementale de Soues et les alpages de Fondurlé-d'Ambelle. Et donc les éco-gardes équestres sont embauchés avec leur monture. Dans ce temps d'animation politique auprès des élus de la Drôme, bah, j'avais à cœur de spécifier que la Drôme avait la chance, contrairement à plein de départements, d'avoir au sein de son territoire une identité équine à faire valoir. Et voilà, c'était un vrai enjeu politique autour de ça. Et d'autant plus quand on parcourt ces espaces dans ces accueils du public et ces conflits d'usage, notamment pastoraux et d'activités de loisirs dans notre société actuelle, se font sur ces espaces de Fondurlé-d'Ambelle qui sont les alpages historiques de cette famille Barakan. En tout cas, voilà. Et donc, il y a 11 ans, je faisais naître mon premier poulain, voilà, avec un troupeau aujourd'hui d'environ 25 individus, tout confondus, les jeunes, les adultes, autour d'une structure, enfin, en tout cas, dans le militantisme racial, j'ai porté une fonction d'étalonnier plus que de raison, puisque j'ai eu jusqu'à 4 étalons, encore jusqu'en début d'année, j'ai vendu un étalon, il m'en reste 3. Ce qui est bien trop hein, quand, dans un élevage quand le mien, qui reste un tout petit élevage, mais on est malheureusement, au sein de la dynamique de population, encore trop peu de gros éleveurs, de vrais éleveurs, mais aussi parce que ce n'est pas une tradition et qu'on n'a pas réussi à embarquer dans les Pyrénées un gros éleveur de Mérins, presque un éleveur normal, le gars il fait 20 poulains par an. Nous, c'est, pendant des années, c'est ce que l'ensemble des éleveurs faisaient. On se réjouit de faire 30-35 poulains aujourd'hui. Le moindre éleveur bovin d'une exploitation moyenne, en bovin, on va dire allaitant, viande, c'est entre 30 et 50 veaux par an. On ne fait même pas ça à l'échelle associative. C'est dire à quel point la dynamique
populaire. Vous êtes combien d'éleveurs sur le Vercors ?
Bah, Vercors et territoire étendu, puisqu'il y a une dynamique d'élevage qui s'est très, très bien organisée autour des Hautes-Alpes. Un petit peu, et c'était intéressant justement de nourrir cette réappropriation identitaire à travers notre histoire du Champsaur et du dévolu, des réformes des étalons, ou de ces projets transfrontaliers avec les Italiens.
Et vous êtes combien d'éleveurs
et
alors?
Donc, on est une grosse dizaine, sachant qu'on intègre dans ce qu'on appelle un peu les éleveurs, certains particuliers qui vont faire ou qui font un poulain ou deux poulains tous les deux ans. Des vrais professionnels, là encore, on doit être, si, allez, à peine plus d'une dizaine, mais avec des petits ateliers, voire même des fois des ateliers qui sont mixtes. C'est-à-dire qu'il y a des agriculteurs, on va dire, traditionnels. Je pense sur le Vercors, à un élevage sur le Vercors Nord, qui sont producteurs de lait. Voilà, transformation fromagère, qui sont dans cette affinité territoriale et qui prennent leur place à travers un ou deux poulains par an. Voilà. Donc, ils font partie du maillage de ces acteurs de la sauvegarde de race et de la dynamique de naissance. Septembre dans les grands parcs ici. Alors, ce qui est toujours un peu délicat, notamment vis-à-vis bon, sinon de la surveillance, dans l'assistance si nécessaire, parce que c'est quand même, on a beau être dans une espèce rustique relativement facile dans sa fonctionnalité de reproduction, on n'est jamais à l'abri d'un poulain qui sortirait pas, d'une vigilance qu'il faut donner peut-être au primipare, enfin voilà, choses comme ça. Et puis on rajoute à ça évidemment bah, les premiers accidents de la vie. Il y en a, un poulain qui passe sous la clôture, qui tombe dans un trou. Enfin, voilà, il faut arriver à. Et à la fois, moi je suis pleinement dans la définition de cet élevage qui se veut être au naturel, avec tout ce que je laisse au naturel et que j'accepte comme prise de risque, et malgré tout que je veux un minimum encadrer et minimiser, évidemment dans un souci d'enjeu économique. Sinon, dans cette accidentologie où on va intégrer la prédation du loup qui reste, quand bien même l'espèce équine ne serait pas la première concernée, elle n'en est pas moins concernée. et en fonction du positionnement de l'élevage et de cette problématique aussi locale, enfin voilà, ça reste une angoisse, voilà. Et on sait que le loup est partout présent aujourd'hui, donc. Je démarre le travail assez tardivement, si tant est que réellement je puisse parler de travail dans la mise en fonctionnalité, puisqu'aujourd'hui je ne vends en tout cas à l'extérieur que plutôt des poulains. Mon objectif est de vendre plutôt des poulains. Et donc Minjana, qui a 3 ans, n'est pas à la vente. C'est une jument qui est née à la maison, mais qui va renouveler le vieillissement de mon cheptel de reproductrice. Donc dans tous les cas, elle aura une éducation montée, parce que j'aime bien que les chevaux soient montés. Si on va faire nos petits changements de parc, et voilà, c'est bien que les gamins, les copains puissent monter à cheval. Je ne désespère pas, voire même de faire plus, en tout cas avec ces juments-là, quand elles ne sont pas dans leur temporalité de fonction reproductrice. Et en tout cas, je suis sur l'éducation et la mise en place d'un relationnel fort et confiant et qui doit nous permettre de faire évoluer le cheval, non pas, puis c'est une volonté, c'est une philosophie, dans la contrainte, mais plutôt dans la collaboration. Quoi, voilà. Alors après, c'est aussi une nouvelle conscience de ce que le cheval a en conscience besoin d'être acteur plutôt que d'être contraint dans ces phases de débourrage, et que là, une fois de plus, il y a différentes écoles.
Le troupeau commence à nous encercler.
Et là, il y a les poulains. Voilà, ça, c'est Mitsuko que j'ai ramené avant-hier, qui a créé un peu d'animation dans mon groupe. Il est suivi par 2 poulains de l'année qui le découvrent encore. Tu vois, comme ils sont en train de le renifler, comme une odeur un peu nouvelle. Et puis, tiens, viens voir. On voit le poulain là, qui mâchouille. Dans ce mâchouillement d'ouverture de lèvres, il va capter un petit peu des odeurs, des hormones. Il faut qu'on soit aussi un peu vigilant, parce qu'il peut y avoir... Ouais. Nous, si on se retrouve au milieu, il peut y avoir une humeur. Mmh. Et hop, ça se bouscule. Et nous, on se retrouve un peu les quilles dans un jeu de quilles. Voilà, donc il faut quand même toujours être prudent. Au gré de ces rencontres, de mes visites, moi, ce qui va être important pour moi, évidemment, c'est qu'ils aient plaisir à être avec nous. Donc c'est du plaisir qu'on leur donne. Donc on leur gratte autour de la tête pour pouvoir leur mettre un licol sereinement. Et c'est de la désensibilisation. Mmh. Il va falloir évidemment, en tant que futur cheval, compagnon de randonnée, qu'on puisse soigner leurs pieds, en les ferrant ou simplement en les entretenant ou en leur remontant. Il y a d'autres alternatives au ferrage. Moi, je suis acteur d'une réflexion autour aussi de l'usage des pieds et de la naturalité des pieds de nos chevaux. Donc attention, là, il y a une jument adulte qui rentre, un peu les oreilles couchées, qui vient mettre de la pression. Donc là, ça va. Nous, on a un bord de fuite qui est relativement bon, mais on se méfie. Ça va être important d'avoir accès à leur bouche en cas de médication. Tu vois, une poulinière, il faut que j'ai accès à sa mamelle, parce que quand elles vont mettre bas, des fois, il y a des enjeux autour de la surveillance ou des soins de la mamelle. Donc, une petite pouliche comme Plume, il faut, dès son plus jeune âge, qu'elle trouve génial que je lui gratouille et tétouille. Mmh. Et en principe, tu vois que c'est plutôt quelque chose
qu'elle aime bien.
Et donc, ça fait état, tu vois, ça fait ce qu'on appelle du grooming. En fait, je lui offre c'est comme une espèce de grattage mutuel où on les voit tête bêche comme ça. Enfin voilà, donc c'est l'occasion de plein de petites choses, ces temps de contrôle. Je vais regarder un petit peu l'état sanitaire des chevaux, est-ce qu'ils ne sont pas blessés. Mon boulot, c'est aussi de vérifier qu'il y a à boire, qu'il y a à manger, qu'il n'y a pas d'accident, parce que voilà. Et de terminer aussi cette année, cette saison d'élevage. Ouais. J'ai un système qui est transhumant, parce que je ne laisse pas les chevaux sur le Vercors, moi, toute l'année, parce que je n'ai pas les moyens fonciers et de bâtiments. Voilà. Donc, par défaut, j'ai mis en place un système transhumant, et j'aime beaucoup le petit clin d'œil historique, finalement, cette épopée transhumante de Barakan.
La relève de Barakan.
Une des relèves, mais à moindre échelle, mais malgré tout, c'est une réalité, alors qui ne se fait pas forcément à pied, qui se fait du coup en camion et en van pour moi. Mais l'ensemble de mon cheptel descend dans la basse vallée de la Drôme, vers Soues. Créé sous, et voilà. Et donc mes chevaux évoluent en toute naturalité également en hiver, c'est-à-dire que je suis sur un système, là encore herbacier, zéro fourrage, sauf au besoin, mais je veux dire que moi pour 25 chevaux, je consomme rien, on va dire, en foin, c'est anecdotique. Voilà, donc c'est vrai que là en plus on a eu quand même plus qu'une belle semaine, donc un poulain qui aurait profité de ces belles journées, ça aurait été chouette. Si elle me fait mon poulain à l'aube des premiers coups de neige, ça va être moins rigolo, mais voilà, une fois de plus on s'adaptera, on mettra du foin si nécessaire, on mettra à l'abri si nécessaire, mais ça fait partie du jeu, voilà. cheval de bataille, c'est mon quotidien, c'est vivre autour de mes chevaux, c'est faire des chevaux sains, équilibrés et raconter une histoire, celle de notre territoire, le Vercors, de cette histoire familiale, de cette famille Barakan. Et mes chevaux, si réglementairement, parce que la terminologie réglementaire, elle est, c'est pas déposé à l'INPI, hein, ce terme cheval du Vercors de Barakan. Oui. Ceci dit, réglementairement, un cheval du Vercors de Barakan ne peut être qu'un cheval qui répond aux critères de la dite race. Et d'ailleurs, la race, c'est race cheval du Vercors de Barakan. Je revendiquerai toujours cette même histoire parce que c'est cette continuité qui fait que cette histoire est singulière et elle est belle. Et moi-même, de temps en temps, un peu par formalisme, je rappelle que c'est cheval du Vercors de Barakan, mais évidemment que de mon humeur du jour, je vais dire le Vercors, mon Barakan. Et chacun se saisit de cette histoire comme il en a envie. Et non, on n'effacera pas des tablettes. L'origine de ce cheval comme étant le Vercors et l'origine de ce cheval à laquelle l'empire, une fois de plus pastoral, cette dynastie familiale, alors autour d'un seul personnage, mais il y a un père, il y a des enfants, il y a toute une de cette famille Barakan, elle est essentielle. Je crois que, en tout cas, peu importe les évolutions identitaires et qui là encore ne sont que des arrêtés, des coups de tampon, je ne doute pas une seule seconde qu'il restera toujours quelque part une histoire et l'évocation d'un cheval du Vercors de Barakan.
Merci beaucoup François.
Merci à toi Magali.
Ramassez dans les petites pommes, hein. J'en ai ramassé les grosses, mais ramassez les petites pommes.
Nous sommes dans un parc à la Chapelle en Vercors avec François, Luna et Alice. Et alors là, François embarque les deux collégiennes qui viennent de quitter le collège pour aller changer les chevaux de parc. Donc on est face à trois chevaux du Vercors de Barakan au couchant automnal.
On va rester là, ils vont venir à nous. Zazou, viens là. Allez Marita. Et Ol. Allez Majaya. Donc on a dit, Luna elle va monter Thalys et toi tu vas monter les talons.
C'est lequel?
C'est lui.
Fais attention, même si c'est un étalon gentil, il est avec ses juments, il les connaît. Mais forcément, des fois, ça fait... Et puis ça se... Voilà.
Vous allez monter au licol.
François installe un licol et une longe. Et donc, les filles vont monter à cru.
On va faire ça. Alors vraiment, les consignes, les filles, ça va être de garder ses distances. Et je vais mettre Thalys derrière moi. Et Éole qui va boucler la marche. Donc toi, l'enjeu, c'est que ton cheval... Alors, t'as vu, on n'a pas de mort. Donc tu verras, c'est un ultra cool. N'empêche qu'on va se mettre en mouvement, ça va créer un peu de dynamique. Lui, il ne faut pas qu'il ait le nez sur la jument de devant.
Okay.
Donc il faut que tu gardes un petit peu de retrait. Donc ouais. Tu fais comme tu sais faire. Il risque des fois de forcer un petit peu. Mais comme tu es cavalière, dans ton attitude, ton regard, tes épaules, tes jambes, tu vas l'orienter aussi comme tu veux. Je vais te mettre tout de suite toi en selle. Hop, les épaules bien droites. Donc on a déplacé un étalon et deux juments, et les deux juments Je les avais échographiées. En principe, elles ont un bébé qui naîtra fin avril, début mai, l'année prochaine. Voilà.
Donc là, ils sont parqués combien de temps ici ?
3 semaines. Mmh. Eux, ils vont terminer la saison jusqu'aux premières neiges persistantes.
Comment c'était cette petite sortie-là ?
Moi, j'ai adoré, c'était génial.
C'était trop bien.
C'était l'ADN